journal Marie-Françoise Ewolo.
Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au 13h. Boya, capitale du budget 2025, une enveloppe de 7 317,7 milliards de francs CFA pour impulser une dynamique économique robuste. Telle est l'ambition affichée lors du lancement de ce budget à Boya par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Entre promesses d'un accès énergétique accru et désenclavement des zones productives, les attentes des entreprises et des populations se font pressantes. Mais derrière ces annonces, quels outils garantiront la concrétisation? Le monde des affaires scrute, les populations espèrent et les économistes analysent. Suivez notre décryptage des grands enjeux de ce budget dans le 13h. Énergie électrique, le Cameroun perd de la puissance. Les centrales hydroélectriques des Deya et de Sonloulou enregistrent une baisse de production de 70 MW, une situation qui découle des changements climatiques dans le monde. Gaston Elundu et Somba, dans un communiqué signé hier, fait l'état des lieux de la situation. Pour le ministre de l'Eau et de l'Énergie, le gouvernement, en collaboration avec les acteurs de ce secteur, ont pris des mesures adéquates pour atténuer considérablement ces perturbations qui causent des désagréments énormes aux populations. Dans le 13h, le quotidien, dans les ménages et les commerces. Sport, football, première division, deux matchs avancés de la 8e journée se jouent cet après-midi à Douala et à Melon. Stade Renard accueille Gazelle de Garoua. Union de Douala sera face à Coton Sport. Et puis, deuxième séance d'entraînement cet après-midi pour les Lions indomptables U17 à Bafoussam. Elles affrontent samedi prochain les Égyptiennes. L'exercice budgétaire 2025 officiellement lancé à Bouya ce jour. C'est la cérémonie solennelle de lancement présidée par le ministre des Finances. Occasion pour lui, Paul Motazé, de présenter la loi de finances 2025 et ses principales orientations. C'était devant différents acteurs de la chaîne. Actuellement, l'heure est aux exposés de circonstances. Ceci porte, entre autres, sur les innovations fiscales et douanières, la présentation du budget d'investissement public ou encore les innovations en matière de contractualisation publique. La loi de finances 2025 vise donc une croissance économique de 4,1% et un taux d'inflation de 4%. Pour y parvenir, il sera question d'améliorer la transparence et la gouvernance dans les transactions financières, de renforcer la coordination entre les acteurs de la chaîne budgétaire et de mettre en place un système efficace de gestion des risques, autant de mécanismes qui devraient permettre à l'État de garantir le bien-être de ses populations. Tout simplement.
Il faut se référer à la circulaire du ministre des Finances définissant les actions à mener pour une exécution effective et efficiente de la loi de finances 2025, la finalité étant l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations. Au plan économique, par exemple, l'on parle du renforcement du secteur de l'industrie, de l'eau et de l'énergie, le développement des infrastructures de transport, la poursuite de la construction des logements sociaux et la promotion du patriotisme économique à travers la valorisation des produits made in Cameroun. Pour ce qui est des mesures fiscales, elles ont pour objectif de renforcer la confiance des contribuables et des investisseurs, préalable indispensable à la mobilisation des recettes fiscales sans entraver la croissance économique et la compétitivité des entreprises. Autre mécanisme de réalisation de l'ambition du gouvernement contenu dans la loi de finances 2025, l'élargissement de l'assiette fiscale, l'optimisation de la taxe sur les transferts d'argent, l'intégration pour les établissements de crédit de déduire des provisions pour les créances et engagements douteux lorsque les dites provisions portent sur des crédits annuels supérieurs ou égaux à 50 millions. Autant de mécanismes et bien d'autres comme l'amélioration de la gouvernance et de la transparence qui devraient se solder par une réalisation optimale des ambitions contenues dans la loi de finances 2025 pour le bien des populations.
À Douala, la cérémonie de lancement du budget de l'État et des entités publiques pour le compte de l'exercice 2025 se déroule en ce moment dans les services du gouverneur de la région du littoral. Une rencontre qui réunit les responsables des diverses administrations, les élus locaux et les opérateurs économiques. Retrouvons en direct les services du gouverneur du littoral notre correspondant permanent à Douala, Léon Bertrand Tanefo.
Les innovations, les mesures d'implémentation et les points d'attention relèvent tous des perspectives rassurantes, mais une réalité implacable. Le budget 2025 est exécutoire et sa mise en œuvre intervient dans un contexte difficile. La région du littoral dispose d'une enveloppe de 102,67 milliards de francs CFA et sa consommation efficiente est aussi tributaire d'une gestion saine, rigoureuse et conforme à la loi. Des échanges qui se poursuivent dans la salle des actes des services du gouverneur, des réponses concrètes sont données aux préoccupations des contribuables. Elles concernent les innovations fiscales, les innovations douanières et même le budget d'investissement public de la région du littoral pour l'exercice 2025. Les travaux sont présidés par Aboubakari Amanchiouto, secrétaire général des services du gouverneur, représentant la dite autorité administrative. Les autorités administratives de la circonscription financière du littoral 1 prennent aussi part aux travaux. Douala, Léon Bertrand Tanefo, CRTV.
Chute de régime dans le réseau interconnecté sud. C'est la principale conséquence de la perte de 70 MW dans les centrales de Sonlulu et d'Edea. L'information est contenue dans un communiqué de presse du ministre de l'Eau et de l'Énergie rendu public. Gaston Elundu Esumba explique les raisons de cette baisse qui n'est pas sans conséquence pour les populations et même les industries. Oswald Medung.
Le réseau interconnecté sud Bois du Noir, et voilà des semaines que ça dure. Une situation aux impacts négatifs qui justifie largement cette sortie du ministre en charge de l'eau et de l'énergie. L'important communiqué relatif, tant par la forme que le fond, part du constat qui relève les perturbations que connaît le réseau interconnecté sud dans la fourniture en continu de l'énergie électrique. Ce qui est mis en cause ici, c'est le faible taux de remplissage des barrages réservoirs qui ont enregistré un déficit de 2 milliards de mètres cubes d'eau durant la saison des pluies de 2024. Le débit inhabituel observé en cette période d'étiage est loin d'arranger les choses. D'ailleurs, les conséquences ne se sont pas fait attendre. Corollaire immédiat des difficultés en amont, une baisse de la production de Sonlulu et Edea. Les centrales accusent une perte sèche de 70 MW. Le communiqué du ministre de l'Eau et de l'Énergie indexe également le manque d'eau dans la chute de la production de Mumvelu qui est passée de 200 MW en novembre pour 35 seulement à date. Et le ministre de préciser que cette situation hydrologique défavorable serait elle-même la conséquence des changements climatiques actuels. Ajouté à cela, l'arrêt des centrales thermiques de Dibamba et Kribi depuis près de 5 mois et le tableau s'assombrit davantage. Conscient des inconvénients que charrie ce cas de force majeure, le gouvernement, souligne le ministre Gaston Elundu Esumba, a pris des mesures d'atténuation en vue de garantir un retour à la normale dans les meilleurs délais. Cela va de l'optimisation des centrales existantes à la mise à contribution des industries via le réaménagement de leurs plages de consommation en passant par le renforcement de l'approvisionnement en combustible des centrales du réseau. Autre point essentiel abordé dans la communication du ministre, c'est les négociations que le gouvernement poursuit en vue du règlement de la dette de Eneo envers ses principaux fournisseurs.
À Ibulova, dans le sud, le courant électrique passe, mais pas toujours. Alors que le réseau interconnecté sud est censé assurer une alimentation stable, il laisse souvent la ville dans l'obscurité. Et quand l'électricité flanche, c'est tout un écosystème qui se trouve à l'arrêt. Mais comment les commerçants et les travailleurs réagissent-ils à ces coupures à répétition? La réponse dans ce reportage d'Anissé Siesteritian, CRTV Sud.
Dans le salon de coiffure de Francis Mungu, le travail continue, mais les coupures d'électricité restent une ombre qui plane constamment.
Quand je suis en train de coiffer, on coupe la lumière. Il n'y a pas de clients, je vais rester sans travailler.
Chez Franck, à votre responsable d'une unité de reprographie, l'histoire est similaire.
Quand nous le courant, les machines sont en arrêt, rien ne marche, nos clients ne sont pas satisfaits, on est vraiment coincés.
Et pour les petits commerces, un stock à gérer, des produits à vendre, et pourtant, aucune garantie d'une lumière constante pour assurer le bon déroulement des affaires.
Quand on coupe le courant, nous sommes obligés d'utiliser le groupe électrogène. Et des fois, ça nous pénalise. Non seulement le carburant coûte très cher, ça augmente nos dépenses.
Cela affecte la conservation des aliments. J'ai perdu mon congélateur à la suite d'une coupure.
Entre la baisse du niveau d'eau dans les barrages et les travaux sur le réseau, les habitants attendent sa stabilité. Ebolova, Anissé Siesteritian, CRTV.
écoutez le trésor et les trésors passés de 9 minutes à Yaoundé. Le paysage industriel camerounais s'enrichit d'une nouvelle industrie de broyage du cacao et de transformation des produits dérivés. Elle est inaugurée en ce moment au Kouamari en Bankomo dans la Moufouya Kono. La cérémonie est présidée par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique par intérim, Fou Calistus Djentri, en présence de plusieurs membres du gouvernement. Une initiative qui apporte une valeur ajoutée au cacao camerounais et renforce la politique de l'import substitution. Retrouvons en Bankomo notre reporter de CRTV Centre, Christian Baisso.
Bâtie sur une superficie de 300 mètres carrés, l'usine se dresse fièrement à Okoamaria, dans l'arrondissement de Bankomo. Spécialisée dans le broyage et la transformation du cacao local, cette jeune industrie se distingue par la performance de son plateau technique et la qualité de sa gamme variée des produits de chocolaterie et de confiserie. C'est donc pour donner l'onction du gouvernement camerounais qu'une brochette de membres du gouvernement fait le déplacement pour cette inauguration. Sont présents à Bankomo le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique par intérim, Fro Calistus Gentry, du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Owona, de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Bayrobé, du Commerce, Luc Magloire Baga Atangana, et le ministre directeur adjoint du cabinet civil à la présidence de la République, Oswald Baboké. Plusieurs personnels ont reçu les médailles d'honneur du travail. La présente cérémonie est rendue à la phase des allocutions, très attendue tout à l'heure, la coupure du ruban. Bankomo, Christelle Mbaïso, CRTV.
Lutte contre l'insalubrité dans la ville de Yaoundé, le ministre de l'Habitat et du Développement Urbain recommande aux différents acteurs et usagers de la voie publique de redoubler d'efforts pour garder la ville de Yaoundé propre. Célestine Ketcha-Courtès était sur le terrain. Elle a relevé les goulots d'étranglement qui freinent les actions de lutte contre l'insalubrité dans la ville de Yaoundé. Nous l'écoutons. Elle est au micro de Christian Baïsou.
Nous avons convoqué une réunion ad hoc pour prendre les décisions idoines, pour comprendre pourquoi les orientations que nous avons données depuis 2019 au maire ne marchent pas. Nous organisons chaque année et le gouverneur de la région du centre va lancer la campagne Ville Propre. Il s'agissait pour nous de comprendre pourquoi toutes ces actions qui concourent à mettre tous les acteurs, société civile, commerçants, bénéficiaires, des services essentiels de base ne marche pas. Il faut dire que sur le terrain, nous nous sommes rendus compte de ce que, effectivement, qu'en plus du problème des paiements des prestataires qui se sont totalement démobilisés depuis décembre, il y en a qui revendiquent 4 milliards, 15 milliards, mais il y a également le fait que l'esprit patriotique n'y est pas. Nous avons quand même des petits tickets que payent les commerçants. En l'absence des entreprises prestataires officielles, on pourrait utiliser ces petites ressources des opérateurs des marchés pour organiser les jeunes, cette main-d'œuvre jeune, dynamique, disponible, pour faire le maximum avec le minimum, comme a demandé le chef de l'État.
Lutte contre la corruption, la CRTV et la CONAC en synergie pour combattre cette gangrène. Les deux institutions envisagent d'améliorer leur collaboration en vue de rendre plus visibles les actions de sensibilisation, de prévention et d'éducation des populations. Le sujet était au centre de la rencontre hier entre le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, et le président de la Commission nationale anticorruption, le révérend Dr Dieudonné Massigams. Agnès Sylvie Nanzama.
La lutte contre la corruption n'est pas un combat exclusif de la CONAC, c'est aussi celui de la CRTV. Ainsi s'exprimait Charles Ndongo en recevant le président de la Commission nationale anticorruption pour réitérer à ce dernier que l'Office demeurera un acteur majeur de la riposte à ce fléau.
Monsieur le Président, nous vous assurons de notre coopération, de notre entière adhésion à ce que vous faites et à un accompagnement qui doit se poursuivre et s'intensifier.
La CRTV étant le média leader au Cameroun, la CONAC ne peut faire sans elle, dira par la suite le révérend docteur Dieudonné Massigams.
On ne peut mener une action amplifiée intensifier dans la lutte contre la corruption que si nous sommes en communion avec la CRTV. Et nous pensons que ceci va beaucoup aider pour que notre pays, comme le dit le chef de l'État, soit débarrassé davantage de la corruption.
Depuis 2018, Espace CONAC est diffusé sur la CRTV. Il est par exemple question aujourd'hui de multiplier les émissions du genre sur les antennes radio et TV avec des programmes en français et en anglais repris par les stations régionales, souhaite le président de la CONAC.
Les stations régionales, effectivement, doivent être impliquées pour que ce qui s'est dit au poste national puisse être suivi, relayé au niveau des régions. Ça aiderait énormément.
En exprimant sa gratitude à la CRTV pour tout l'accompagnement médiatique, le président de la CONAC recommande tout de même que la cellule anticorruption de la CRTV soit plus dynamique. Et sur ce point, le directeur général de la CRTV s'est voulu rassurant. Cette cellule donnera de meilleurs résultats avec le redéploiement à venir en son sein de nouveaux responsables.
Notre série Génération IA présente un jeune enseignant de mathématiques à l'université de Yaoundé 1. Il est promoteur d'une plateforme qui aide à l'orientation scolaire dans les établissements. Déterminé si un élève a plus d'aptitude pour les filières littéraires que pour les sciences, l'application virtuelle joue même le rôle de répétiteur pour les apprenants. Le jeune promoteur s'appelle Fred Ngaba. Il est fondateur de la plateforme OSIA. Son portrait avec Gilles-Claude Mbongitundi.
Sa thèse de doctorat ne portait pas sur l'orientation scolaire, mais plutôt sur les mathématiques. Le docteur Frédéric Ngaba a utilisé les formules et les algorithmes pour créer OSIA. La fibre littéraire ou scientifique des élèves est détectée par l'application.
Elle se nourrit, notre IA, des données probantes, les notes de classe annuelles, des tests psychotechniques, les aspirations et motivations intrinsèques et extrinsèques de l'apprenant, l'avis des parents, naturellement l'état civil. Nous avons entraîné une machine learning qui, elle, à partir de ces informations, va dresser un document d'un verdict prévisionnel d'orientation. C'est un document qui va retracer est-ce que cet enfant a un profil technique ? Est-ce qu'il a un profil scientifique ? L'IA va vous le dire.
À base des données collectées, l'assistant d'intelligence artificielle va jusqu'à dresser le profil psychologique des élèves, un précieux atout pour anticiper les déviations qui pullulent dans les arènes du savoir.
Nos apprenants ont chacun un talent caché. L'IA, lorsqu'elle est bien entraînée, peut détecter ce talent.
Prendre un répétiteur est parfois un luxe difficile à s'offrir pour les parents d'élèves. Une fois connectés sur la plateforme, toutes les sciences et les formules sont décortiquées, mais ce n'est pas tout.
Nous avons tropicalisé notre IA pour que ce modèle de réussite soit africain ou camerounais.
L'analyste des données a connecté une quinzaine d'établissements en son réseau virtuel. Le lauréat UNESCO Award de 2021 compte accroître cette performance en 2025.
Le Cameroun va abriter le premier forum national sur les ressources génétiques les 16 et 17 janvier prochains. Notre pays, qui est membre de la Convention sur la diversité biologique, donne ainsi l'occasion de présenter sa grande richesse sur les plans de la faune, de la flore et des micro-organismes. Si, sur le volet économique, il y a de nombreux avantages à tirer de l'exploitation des ressources génétiques, il faut déjà à la base connaître de quoi il est question. Les éclairages de Lynn Renée Batongué.
Une ressource génétique, selon la définition que donne la Convention sur la diversité biologique, c'est un matériel génétique ayant une valeur effective ou potentielle. Ce sont les ressources naturelles que constituent les diverses espèces vivantes, animales ou végétales. Chacune de ces espèces a des gènes ou des informations issues de l'ADN. Ainsi donc, les ressources génétiques peuvent être employées aussi bien pour un usage commercial que non commercial. Une entreprise peut se servir de ressources génétiques pour développer des enzymes spécialisées, des gènes améliorés ou de petites molécules. Ces ressources peuvent être utilisées dans la protection des cultures, le développement des médicaments, la production des produits chimiques spécialisés comme les parfums ou la transformation industrielle. Mais à côté de cela, l'utilisation de ces ressources génétiques se fait de façon empirique depuis la nuit des temps, par nos ancêtres et nos grands-parents. Ils savaient par exemple comment soigner une maladie par des plantes, des graisses animales, de l'eau de source ou de mer, etc. Il est donc désormais question pour le Cameroun de réguler l'utilisation de ces ressources génétiques et amener les populations non seulement à tirer avantage de leur exploitation, mais aussi à tirer avantage de l'utilisation de leurs connaissances traditionnelles. Et c'est tout l'objectif de ce premier forum national qui va se dérouler ici à Yaoundé.
Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Joseph Lay, informe les agents publics que son attention vient d'être attirée sur l'existence dans la blosphère, la biosphère, d'un vaste, dans la blogosphère, pardon, d'un vaste réseau d'escroqueries et d'arnaques au sujet de la création des comptes sur le portail Aigle, application informatique de gestion logique des effectifs et de la solde. Ces personnes de mauvaise foi ont ainsi créé une chaîne WhatsApp dénommée Minfo Pra Information, où sont proposés des services payants aux usagers via 3 numéros de téléphone. Le Minfopra tient à rappeler que le service public est gratuit et ne saurait faire l'objet d'un quelconque monnayage. Les autorités compétentes ont d'ores et déjà été saisies afin de mettre hors d'état de nuire ces usurpateurs. Pour toute information utile s'agissant des services rendus par le Minfopra, les seuls contacts et adresses habilitées à renseigner les usagers sont les suivants. Numéro vert 1522, il est gratuit. WhatsApp 622 00 16 16 622 00 16 16, et l'adresse email appli@aigle.gov.cm. Trois magistrats militaires nouvellement promus et affectés auprès des tribunaux militaires des Bolova, de Ngaoundéré et de Maroua ont prêté serment ce mercredi à la Cour suprême. L'audience était présidée par le président de la Chambre administrative de la Cour suprême, Daniel Ndoumbé-Ité, qui recommande neutralité et respect des lois et règlements de la République. Dans ses réquisitions, le procureur général près la dite Cour, Luc Ndiodo, a insisté sur le respect des valeurs d'impartialité et d'intégrité. À 2025, les services qui seront offerts aux pèlerins camerounais doivent être marqués du sceau de la qualité. L'exigence est du ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji. Le Cameroun vient de procéder à la signature d'un contrat avec un prestataire saoudien pour la bonne organisation matérielle de ce pilier de l'islam. Les documents ont été paraphés à Djeddah par l'ambassadeur du Cameroun au Royaume d'Arabie Saoudite, son Excellence Iya Tijani, et le patron de l'entreprise. Retrouvons à Djeddah Mohamed Nana, l'un de nos envoyés spéciaux.
C'est officiel, le Cameroun et le prestataire saoudien Rawaf Mina sont désormais liés par un contrat. Le document pose les jalons de l'organisation matérielle du Hajj en terre sainte de l'islam. Son Excellence Iya Tijani, ambassadeur du Cameroun au Royaume d'Arabie Saoudite.
Les dispositions que nous sommes en train de prendre visent à faire mieux que ce qui s'est passé les années précédentes.
Le document intègre des aspects bien précis: hébergement, nutrition et transport et autres commodités. Une signature sous l'œil vigilant du ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, le président de la Commission nationale du Hajj, l'a martelé. Les services offerts aux pèlerins camerounais doivent être marqués du sceau de la qualité et le prestataire saoudien semble l'avoir compris. Zouhair Sagat, président directeur général de Rawaf Mina.
Nous sommes conscients des enjeux pour offrir des services de qualité aux pèlerins camerounais.
Selon les prévisions, 5700 pèlerins camerounais pourraient faire le déplacement de l'Arabie Saoudite cette année. Cette signature de contrat s'est déroulée, prolongement de la conférence internationale sur le Hajj et la Umrah, un événement qui a rassemblé les autorités saoudiennes et les membres de plusieurs délégations venues des quatre coins du monde. Amin Bala, Mohamed Nana, envoyé spécial à Djeddah.
Le personnel du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique présente les vœux de nouvel an 2025 au ministre Mounouna Foutsou, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, le jeudi 16 janvier dès 13h au Palais des Congrès de Yaoundé. Ce sera au cours d'une cérémonie qui verra la remise de médailles au titre du 20 mai 2024 aux récipiendaires. Quelques nouvelles de l'étranger. En République démocratique du Congo, les affrontements qui opposent les militaires congolais et leurs alliés au groupe armé M23, soutenu par le Rwanda voisin, se sont intensifiés ces derniers jours. Plusieurs fronts ont été ouverts dans la province du Nord Kivu, mettant en difficulté le cessez-le-feu négocié durant l'année 2024. Aux États-Unis, l'incendie à Los Angeles continue de faire des ravages. Le bilan actuel fait état de plus de 12 000 habitations, bâtiments, véhicules détruits et des quartiers entiers rasés. Quelques 88 000 personnes sont toujours déplacées et au moins 25 personnes ont perdu la vie. Des nouvelles brèves rédigées par notre stagiaire Jean-Philippe Ebella. En sport, championnat national Elite One, deux matchs de la 8e journée avancée se disputent cet après-midi à Melon. Stade Renard accueille Gazelle de Garoua, tandis qu'au stade annexe de la réunification, Union Sportive de Douala sera face à Coton Sport. Coton Sport de Garoua, toujours à la recherche du déclic après un début de saison difficile. Charles Abosoloba.
En proie à une crise des résultats qui a coûté à Bonaventure Jonkep son poste d'entraîneur, Coton Sport a l'occasion de se remettre sur les rails. Huitième au classement avec 10 points à 3 longueurs du premier relégable, le club de Garoua est en quête de rédemption. Une victoire cet après-midi face à Union Sportive de Douala permettrait au coéquipier de Félix Oukiné d'aller bousculer Victoria United à la 3e place du classement avec 13 points. Mais rien ne sera facile face au Kamakai qui joue à domicile et qui lutte pour sortir de la position peu enviable de 10e à la lisière de la zone rouge. Juste un cran au-dessus, Stade Renard de Melon, 9e avec 9 points, a également fort à faire cet après-midi. Il faudrait être bien futé pour arracher un bon résultat à la maison face à une équipe de Gazelle FA de Garoua en feu depuis les débuts de la saison. Grâce à ses artificiers Serge Dora et Jordi Yumba, auteurs de 4 buts chacun, Gazelle talonne Colombe du Jai Lobo à la tête du classement, une place que les hommes d'Alioum Kada veulent à tout prix consolidé. C'est donc une 8e journée avancée qui promet des étincelles ce mercredi dès 15h30 au stade annexe de la réunification à Douala et au stade de Melon.
Éliminatoire de la Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans. Les Lions indomptables U17 sont à Bafoussam depuis hier. Elles s'apprêtent à affronter les Égyptiennes de la même catégorie en match retour dans le cadre de la première phase des qualifications à cette compétition. La deuxième séance d'entraînement est prévue tout à l'heure à 14h au stade de Bamendi. La coordinatrice générale du Cercle des Amis du Cameroun, CERAC, informe les membres des volets nationaux et diplomatiques de cette association que leur 31e Assemblée Générale se tiendra le jeudi 16 janvier 2025 à 10h précises au siège du CERAC à Yaoundé. L'ordre du jour portera sur la présentation du rapport d'activité et du bilan financier de l'année 2024, la certification des comptes ainsi que l'adoption du plan d'action et du calendrier d'activité de l'année 2025. C'est signé pour la coordinatrice générale adjointe Ndo Angeline. Vous écoutez le 13h, voici à présent le condensé des nouvelles du jour en anglais. Patience Wiringo.
Good afternoon. The Minister of Finance, Louis-Paul Motazé, is in Boya Southwest Region this Wednesday to chair the launch of Cameroon's 2025 state budget. Amid ongoing challenges like inflation and external debt, the budget is a crucial instrument for guiding the country toward economic growth and stability. The government has outlined key priorities including infrastructure development, energy and social services, with a focus on meeting growing public demands for improved healthcare, education and job creation. Cameroon has signed a contract with a Saudi Arabian company to enhance the living and praying conditions for Cameroonian Muslim pilgrims traveling to the Holy Land this year. The agreement was signed by Cameroon's ambassador to Saudi Arabia, Iya Tijani, and the CEO of Rawaf Mina in the presence of the Minister of Territorial Administration, Paula Tanganji, on the sidelines of the 4th International Conference on Hajj and Umrah. Three military magistrates took their oath of office during a solemn ceremony at the Supreme Court today. The ceremony was held in the presence of the President of the Administrative Bench of the Supreme Court, Daniel Ndombe Eteki, and the Procureur General of the same court, Luc Jodo. The new magistrates will serve in the military courts of Garoua, Ebolova, and Ngaoundéré. And in sports, two advanced day 8 matches of Elite One Football Championship will take place this afternoon. Stade Renard will host second place Gazelle of Garoua at the Melon Municipal Stadium starting at 3 p.m. If Gazelle wins, they will level on points with league leaders Colombe Sportif of Dja and Lobo. Meanwhile, at the Reunification Stadium in Douala, local side Union will face Coton Sport of Garoua at 3:30 p.m.
À retenir de cette édition qui s'achève, Bouya, capitale du budget 2025, une enveloppe de 7 317,7 milliards de francs CFA pour impulser une dynamique économique robuste. Telle est l'ambition affichée lors du lancement de ce budget à Bouya par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Énergie électrique, le Cameroun perd de la puissance. Les centrales hydroélectriques des Déa et de Son-Loulou enregistrent une baisse de production de 70 MW, une situation qui découle des changements climatiques dans le monde, a précisé Gaston Elundu et Somba dans un communiqué signé hier qui fait l'état des lieux de la situation en sport football. Première division, deux matchs avancés de la 8e journée se jouent cet après-midi à Douala et à Melon. Stade Renard accueille Gazelle de Garoua. Union de Douala sera face à Coton Sport de Garoua. 13h29 minutes à Yaoundé, c'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite un excellent après-midi.